a remarqué ta présence. La ranger tika. Je suis entré à Wild Bunch par le corridor de Boabuata, dit-elle, truffé de caméras et de pièges thermiques reliés aux ordinateurs, d'après ce que je vois. Ils auraient dû me repérer. C'est le drone qui t'a localisé, pas les caméras. Ça veut dire qu'on les a sabotés. Forcément. John grogna dans sa barbe. Voilà des jours qu'on les manipulait. Tu as entendu parler du scorpion ? Relança Solana. Le pire trafiquant d'Afrique. On le soupçonne d'être l'auteur d'attaques dans les réserves de la Casa. La tienne aussi, puisque le corridor vous relie. Le scorpion aurait tué votre informateur. Lui ou ses hommes, oui. Et probablement Virinao. En tout cas, si ce type est dans le coup, on peut être sûr qu'il a toute une logistique derrière lui et les moyens de passer inaperçus. Même à Wild Bunch. Assise sur la chaise, Solana faisait un effort pour ne pas perdre le fil, mais sa tête tournait. Trop. John sortit de ses pensées et la dévisagea. Elle était livide. « Je vais te remonter dans la chambre, » dit-il. « Maintenant, tu es toute pâle. » Les sons s'envolaient à petites brasses coulées dans son cerveau fragilisé. « Ouais, je ne me sens pas très bien, » concéda Solana. « Je n'aurais jamais dû t'écouter. Ça va aller, c'est juste un vertige. » Prit-il et coupa. « John, regarde !» Une caméra thermique captait la présence de la femelle rhinocéros et de son petit, collés l'un contre l'autre sur l'écran infrarouge, dormant debout ou d'un œil. « Tu ne remarques rien ?» renchérit-elle. « Il ne bouge pas. Je veux dire, pas d'un pouce. Ni l'arbre, là. Et cet insecte de nuit, il est à l'arrêt. » Le cœur de John se serra devant l'image qui passait à l'écran. Pretty avait raison. La caméra ne filmait plus. Un hacking. « Envoie le drone sur zone, » s'empressa-t-il. « Et donne-moi les coordonnées GPS. » Yost Duplessis menait l'expédition à bord du véhicule de tête, voyageant seul et à vide. Les armes étaient dans le second 4x4 que B5, le tireur d'élite, conduisait. Juan se tenait à ses côtés sur le siège, épiant les mouvements dans la nuit. Le Bas les avait choisis pour leur absence de scrupules et d'état d'âme, n'étant liés à aucun village ni aucune famille de la région. Menu fretin rompu à tous les trafics, deux hommes brinquebalaient sur la banquette arrière. Scar, angolais comme Juan, un trentenaire musculeux qui se prenait pour un lion, bon pisteur et aimant regarder les gens de haut, comme s'il valait plus qu'une pelletée de terre sur le corps, et Doigt de Fée, un Xhosa sud-africain qui savait arracher les défenses et découper les cornes mieux que personne. Juan, l'unijambiste, était moins rassuré qu'il voulait bien le laisser paraître en mâchant son chewing-gum sur le siège avant. Gagner tant de dollars dissipait la peur d'être arrêté et jeté en prison, mais pas celle des esprits nocturnes qui rôdaient à Wild Bunch. Juan n'avait pas pu se procurer de moutis chez le guérisseur. Aussi s'était-il chargé au Brown Brown, un mélange de cocaïne et de poudre à canon qu'on donnait aux enfants soldats avant les combats. Le temps d'avant, quand il avait encore ses deux jambes. Les instructions du Bas étaient claires. Aller vite et profiter de la diversion pour faire le plein de cornes. Mais cette foutue tempête avait retardé l'attaque. Enfin, ils étaient de nouveau opérationnels. La cible se situait dans le secteur est, d'après le Chinois, qui avait piraté les caméras et les pièges photographiques de Wild Bunch. De fait, après plusieurs arrêts en pleine savane pour scruter l'horizon dans ses jumelles infrarouges, le Bas finit par débusquer les rhinocéros. Le mâle à grande corne d'abord, réservé à M. Zeng, puis la femelle et son petit, qui ne dormaient que d'un œil à l'abri d'un bosquet. Le Toki-Woki cracha dans l'habitacle. « On se déploie !» annonça le leader. La tactique d'approche était la même, face au vent, en quart de cercle. Les rhinos étaient bigleux, mais le rouille fine. Le fusil en bandoulière, et prenant garde à leurs pas entre les épineux, le Toki-Woki coupé, les tueurs progressèrent lentement vers les bêtes qui, pour l'instant, ne bougeaient pas. « Tout juste si on ne les entendait pas ronfler !» songea Juan défoncé. Les bêtes vivantes valaient une petite fortune, mais seules les cornes les intéressaient. Yost fit un signe sous la demi-lune qui stoppa net leur avancée. Plus personne ne bougea, sauf B5, un des plus fameux chasseurs du continent, que le scorpion embauchait pour les grandes occasions. Il posa le trépied de la Winchester dans les herbes, cala le fusil contre son épaule et s'agenouilla, l'œil rivé sur le viseur. La première cible était à plus de 300 mètres. Plus loin,